Gloire à Dieu. 2 Rois 24, verset 9. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait son père. Il est question ici du roi Jojaquin. Nous allons maintenant dans 2 Rois, chapitre 25, c'est le chapitre d'à côté, versets 27 à 30. La 37e année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojaquin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Amen. Nous allons voir ce matin donc le fait d'être sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Jojaquin, nous l'avons lu dans une première lecture, que c'était un homme qui a fait le mal. D'autant plus quand on est roi, on a une influence immense. Parce que si à la tête, le roi se permettait de faire des choses horribles, ben le reste du peuple prenait exemple sur le roi. D'ailleurs, la parole nous dit en quelques mots que plus nous avons des responsabilités, plus il nous sera. Voilà. Et ici, Jojaquin, eh bien, avait cette haute responsabilité. Et dans la deuxième lecture, nous avons vu ensemble que il y a le roi Évil-Mérodac qui a pris en charge, eh bien, Jojaquin. En fait, Jojaquin a vécu des temps difficiles puisque les châtiments divins du Lévitique 26, on peut faire cette lecture, trouvèrent leur accomplissement sous le règne de Jojaquin. Lévitique 26, vous le lirez à la maison tranquillement, parce que ce serait beaucoup trop long. Il est écrit au verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. » J'ai brisé des liens, les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Mais, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez ma loi et si votre âme a en horreur mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consommation, la fièvre, etc., 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 etc. Et puis on tourne la page, verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. Donc ici, Jojaquin, il est en train de vivre, en fait, ce que Dieu avait dit. Dieu avait mis sur eux des commandements et des ordonnances, et il leur promettait, en quelques mots, d'être avec eux, de les bénir. Mais, c'est toutefois, il changeait de voie, pour ne pas dire s'il déraillait, il y avait une sanction. Alors ça peut paraître dur, mais il faut nous rappeler, frères et sœurs, qu'en fait Dieu est un père. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit parce que une fois, une personne est partie de l'église parce qu'elle a dit « Oui, vous avez dit ça. » Alors, comment le dire? En fait, est-ce qu'il faut que je le dise? J'ai averti mes enfants. Bon, la fille, c'est bon, elle a passé le cap. Mais j'ai dit au garçon, si un jour je vous apprends, si j'entends que vous fumez, et alors s'il y a le hashish, je vous attrape. Je ne dis pas le reste. Ça peut paraître dur, mais en fait, c'est l'amour qui parle. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants se détruisent. On les a engendrés, on les a bercés, pendant qu'ils dormaient, ils ne s'en rendaient même pas compte, on veillait sur eux. Dès qu'ils faisaient un petit bruit, on était sur eux, on veillait sur eux. On les a pris tendrement, on les a serrés sur notre cœur, et on serait encore à ce jour prêt à donner notre vie pour nos enfants. Les enfants, ils ne s'en souviennent pas, mais on a pris soin d'eux, on a passé peut-être des nuits blanches, on ne les a pas malmenés parce qu'ils nous réveillaient en pleine nuit. C'était l'instinct paternel, l'instinct maternel qui parlait. Et on prenait soin de nos petits, dès qu'ils étaient en souffrance, on n'était pas bien. En fait, Dieu, il est comme ça avec nous. Dieu, il sait que si nous passons à côté de certaines choses, si nous ne suivons pas sa parole, il y aura forcément des conséquences malheureuses. Il vous est sans doute arrivé de faire cette mauvaise expérience depuis que vous êtes converti, depuis que vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême, d'avoir un jour glissé, d'avoir chuté. Quelle a été votre réaction? Oh, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. J'ai péché, Je ne crois pas qu'on puisse réagir comme ça quand on a donné sincèrement son cœur à Dieu. Il y a une profonde tristesse qui s'installe en nous. Un malaise. En fait, on n'est pas dans la peur ou quoi que ce soit. C'est même pas la peur qui vient nous toucher. C'est la tristesse. On est mal. On n'est pas bien. On se sent en complet décalage. Et lorsqu'on vient à la croix, qu'on dit « Seigneur, je te demande pardon, tu vois, je me suis loupé là. » Et soyons vrais. Disons les choses telles qu'elles sont. Ne disons pas « Oui, Seigneur, tu vois, je suis qu'une femme après tout, ou je suis qu'un homme, alors tu sais, Seigneur. » Non, non, soyons vrais. Prenons nos responsabilités. Dès qu'on passe par la repentance, on sent le Saint-Esprit nous restaurer. Oh, ça ne vient pas forcément tout de suite comme ça. Ça dépend des situations. Mais on sent la paix de Dieu qui vient à nouveau nous submerger, nous inonder. On dit merci Seigneur. Et c'est ça qui nous pousse à ne pas retomber dans le péché. On dit mais l'amour de Dieu est un amour extraordinaire. Et en fait, ici Dieu peut paraître dur, mais Dieu n'est pas dur. Parce qu'il aime tellement passionnément son peuple, il a préféré le sanctionner plutôt que de le voir périr. Et nous allons le voir ensemble, frères et sœurs, qu'en fait, Jojaquin a été emmené en captivité dans une prison sur Babylone et il demeura pendant une longue période de sa vie, pendant 37 années. Il était emmené en captivité, 37 années, presque la moitié d'une vie. Mais le nouveau roi de Babylone, ville Mérodac, était miséricordieux, du moins avec Jojaquin. Aussi transforma-t-il sa condition de vie en une autre condition. La première chose que nous avons lue ensemble dans le livre des rois, au chapitre 2, chapitre 25, on va y arriver, verset 27, ne riez pas, les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est de l'humour. Mais enfin, c'est vrai aussi, c'est écrit ça. Il est écrit donc, au verset 27, la 37e année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin, roi de Juda, et le tira de la prison. 37 années. 37 années. Vous croyez qu'on peut... Il y a des gens qui peuvent être libres de leur mouvement et pourtant être en prison. En prison. Des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent être, même si on fait des messes pour eux, parce qu'ils sont morts, et même s'il y a un tas de gens qui applaudissent parce qu'il est mort, pas parce qu'il est mort, mais parce que c'est pour honorer sa mémoire et pour autant il a fait de la prison, tout ça. Je crois qu'on peut être libre, mais être en prison dans sa tête et dans son cœur. Mais je crois aussi qu'on peut être un chrétien en prison. Vous croyez ça ? Avec un bracelet. Peine de prison aménagée. Avec un bracelet qui ne se met pas au poignet, mesdames. Qui se met aux chevilles. L'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Colossiens de notre vie passée. Au chapitre 3, verset 1, il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il parle à des chrétiens. Hein, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Eh oui, on est mort. Quant à notre vieille nature. Voilà. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels, écoutez bien, vous marchiez ensemble autrefois. Ça, c'est ma vie passée. Enfin, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais enfin, voilà. Lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, donc il parle à des chrétiens qui sont convertis, hein. Mais il parle aussi à des gens, il le sait, il y a des choses à réviser. Renoncer à toutes ces choses, à quoi donc? Quand même, je suis converti, non? À la colère. Tiens donc, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec. Là, on parle. Il y en a des grecs, hein, ici dans la région. Hein. Là, c'est moi qui le rajoute. Il n'y a ici ni arabe, ni africain, ni européen, ni américain, ni asiatique, enfin on pourrait passer toute la liste, hein. Ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, etc. Non, on continue. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Eh bien, moi, frères et sœurs, je crois qu'un chrétien peut être en prison. Encore. Où il s'est enfermé en prison. La prison de la colère. L'air de rien. Mais en profonde colère. La prison de la jalousie. Joseph en a été victime, il s'est retrouvé dans la citerne. La prison de l'oubli. Un jour, j'étais conduit pour prier pour un jeune. Enfin, moi, vous savez, enfin, vous me connaissez maintenant, rarement, pour ne pas dire pratiquement jamais, vous m'entendez dire « le Seigneur m'a dit de vous dire » ou « le Seigneur m'a conduit ici ». Franchement, c'est pas... Moi, je préfère le vivre plutôt que de le dire, parce que, je sais pas, quelquefois, le dire, c'est peut-être pour se dire « regardez un peu ». Je préfère ne rien dire et puis le vivre. Mais enfin, pour le coup... Je crois vraiment que le Seigneur m'avait conduit, et là c'est l'exception, je le dis, hein, vers un grand. Wow. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je dis: ça va mon petit? Et son pasteur m'a dit: à toi aussi tu l'appelles comme ça? Mais alors, un jeune, mais alors lui, j'aurais pas voulu qu'il me tombe dessus. Hein. Et je suis allé prier pour lui. Et puis j'ai prié dans l'idée de dire en quelques mots, Seigneur, qu'il apprenne à s'aimer lui-même. C'est pas banal, hein. Il est venu me trouver après pour me dire, enfin, que c'était conduit. Eh bien, vous voyez, je crois qu'on peut se retrouver en prison tout simplement parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on ne s'aime pas. Je crois qu'on peut se retrouver en prison parce qu'on nous a monnayé. Si tu le dis, il y aura des conséquences. C'est un secret de famille. Chut. Et on nous met en prison. La prison de la désespérance. La prison de la vengeance. Vous savez qu'on peut nourrir la vengeance pendant des années et des années. Absalom. Sa sœur ou sa demi-sœur, je ne sais plus, je crois que c'était sa sœur du même papa, de la même maman, elle s'est faite agresser par son demi-frère, Amon. Il a fait une manigance, je crois que c'était son cousin qui dit « Oh, mais tu te rends mal là !» Enfin, je vous donne ma version. « Tu te rends mal là, t'as qu'à la faire venir, qu'elle te prépare un gâteau, et puis hop là !» Tu la tires dans ton lit, et puis... Oui. Enfin, il l'a violée, quoi. Et Absalom, il n'a rien dit. Mais alors là, il s'est enfermé, mais à double tour. Et à peu près 2 ans après, je crois, il a tué son frère. C'était une catastrophe dans la famille. La prison de la vengeance. En fait, on peut essayer par tous les moyens de se sortir de notre prison, parce qu'on peut s'y reconnaître dans ce que j'ai donné comme exemple. Ou peut-être vous ne le retrouvez pas, mais vous prenez bien conscience que vous êtes vous-même dans une prison par votre faute. Ou pas, d'ailleurs. Et on peut tenter d'essayer de s'en sortir de la prison. Enfin, il y a des exceptions à la règle, on est bien d'accord. Mais enfin, en général, quand on rentre en prison, on n'en sort pas. Ça vous est arrivé d'aller en prison ? Non, ne me répondez pas. Moi, oui, une fois. Pour faire une visite. Ben, ça fait drôle, hein. Et en fait, le garçon que je devais voir au parloir, je n'ai jamais vu, il n'est pas venu. Enfin, je me suis retrouvé dans la prison, ça... On sort d'ici quand même. Ça fait drôle. Mais, comme Jojaquin, vous avez peut-être tenté de vous faire de sortir de prison. Et vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, c'est ce qui est fatigant, c'est ce qui use bien des gens. Parce que ils ont essayé de sortir, et c'est épuisant, et c'est démotivant, et on en arrive même à perdre la foi. Demandez à un alcoolique. Déjà, c'est un grand pas lorsque l'alcoolique va se reconnaître alcoolique. Il ne vit plus dans le déni déjà. Il dit « Je suis un alcoolique ». Et lorsque le médecin lui propose une cure de désintoxication, eh bien, il va y aller une fois, il est encouragé parce que bon, il côtoie d'autres personnes, il dit « Bon, ben, je ne suis pas, peut-être pas bien, je suis pas tombé très très bas quand même, j'arrive à m'en sortir ». Et on lui donne des outils pour qu'il puisse s'en sortir. Alors, il prend courage. Et quand il sort de chez lui, un coup de Trafalgar, une mauvaise nouvelle ou quoi, et hop, il se raccroche à la bouteille. Il y a encore une nouvelle chute. Et combien de gens ont été dans des cures pour essayer de s'en sortir? Et à un moment donné, peut-être qu'ils n'y vont plus. Pourquoi? Ils n'y vont plus, pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Ils disent, mais à chaque fois j'y vais, j'ai un espoir, puis pouf, c'est encore pire qu'avant. En fait, ici, Jojaquin a eu besoin que quelqu'un vienne le sortir de prison. 37 années de prison. Et je crois que les chrétiens que nous sommes, nous pouvons être en prison. On se soit installé dans une prison. Voire même, y trouver même quelque part, comme, j'osais le dire, comme une espèce de confort dans la prison. Parce qu'on ne connaît rien d'autre. Vous avez visionné à la télévision des reportages sur les prisonniers. Ils ont la photo de leur enfant, la photo de leur épouse. Ils ont leur petit truc pour faire bouillir l'eau. Ils ont leur petit... Je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais enfin c'est très petit. Leur petit confort à eux. Et il y en a quand ils sortent, presque, ils s'ennuient d'être dehors parce qu'à l'intérieur, il y a une sécurité pour eux. Et du coup, on n'a pas envie d'en sortir. Sauf que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Si ce matin... quelqu'un serait dans une prison, ne pensez plus que cette prison soit confortable pour vous. Dehors, derrière les murs de votre prison, il y a la liberté, les oiseaux qui chantent, les changements de saison. Il y a la liberté, vous pouvez aller où vous voulez. En fait, votre cœur serait libéré. Alors quelqu'un pourrait dire, mais moi j'ai essayé, j'ai demandé au Seigneur, mais ça n'a pas marché. Je vous renverrai l'ascenseur en vous disant, est-ce que vous l'avez vraiment voulu? Est-ce que vous le voulez vraiment? Dans le psaume 40, verset 2, il est écrit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, parce que c'est ça la prison. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Nous, frères et sœurs, comme Joachim, qui a accepté que ce roi de Babylone vienne le sortir de cette prison, il était au bénéfice de la grâce, d'une grâce royale. Mais à notre tour, nous sommes de ces gens. Nous avons bénéficié de cette même grâce, du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Il est écrit aussi que il lui parla avec bonté. La loi ne parle pas de bonté. La loi ne fait pas ci, ne fait pas ça. Si tu fais, poum, ça tombe. La grâce nous réconforte, nous parle avec bonté. Joachim, en fait, a été un pensionné jusqu'à la fin de sa vie. Pensionné. Il fut mentionné même plusieurs fois sur les tablettes babyloniennes, notamment sur les listes des bénéficiaires des rations alimentaires. Donc c'est historique, c'est écrit, c'est pas des on-dits. Tous ceux qui sont rachetés par la puissance de Christ sont consolés par le Saint-Esprit. La bouteille ne vous consolera jamais. Le haschich ne vous consolera jamais. La vengeance ne vous consolera jamais. Parfois, on pense qu'on va assouvir un besoin. Oh, c'est tellement pressant qu'on... Vous avez déjà eu faim, vraiment faim. Je ne parle pas d'une faim parce que vous avez déjeuné à 12h30 et puis il est 16h, vous avez une petite faim comme Bruno pourrait avoir, par exemple. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir faim comme ça? Ce n'est pas de cette faim-là dont je parle. Non, tu ne manges pas, toi, à 16h. C'est un sportif, lui. Mais d'avoir vraiment faim au point que ça vous fait mal au ventre. Il y a une année, je me rappelle, en fait, ça ne m'a pas traumatisé, je vis très bien. À la maison, lorsque j'étais ado, je ne sais plus quel âge que j'avais, mais enfin, je n'étais pas bien vieux. À la maison, c'était la catastrophe. Pendant un mois, il y avait ma mère, mon beau-père, moi, et je crois qu'il y avait, enfin, il y avait mon frère, puis je crois que le petit dernier était né. En un mois, on a bu 72 litres de lait. Et je ne sais plus combien de pain, parce qu'on n'avait pas les moyens. Ça ne m'a pas traumatisé, puis je me suis rattrapé. Vous voyez? Mais avoir faim, vous savez ce que c'est que d'avoir faim? Même là, moi, je n'ai même pas éprouvé la faim, puisqu'on buvait du lait et on mangeait du pain. Ça gonfle, le pain, non? Et, en fait, le Saint-Esprit est celui qui veut consoler tous ceux et toutes celles qui ont faim de consolation, de guérison, de sortie de prison. Tous ceux qui sont dans la famine. Et je crois qu'on peut être un chrétien qui a besoin d'être profondément visité et de se dire, j'ai le droit, moi aussi, de sortir de la prison dans laquelle je me suis mis. Ou dans laquelle on m'a mis. Vous avez le droit. En fait, si vous êtes encore en prison aujourd'hui, c'est qu'il y a un loupé quelque part. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Celui que le Fils a franchi est partiellement libre. C'est même pas entièrement, c'est écrit, enfin peut-être dans une autre version, c'est écrit réellement libre. Réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il va se retrouver aussi, cet homme, Joachim, restauré. Il est écrit, il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. C'est-à-dire que les autres rois étaient là, et lui, il a retrouvé une place qui était au-dessus encore des autres rois. Quelle grâce! Joachim a eu la première place parmi les autres rois qui étaient captifs avec lui à Babylone. Oh, combien un enfant de Dieu a pu s'enfoncer dans la boue du péché. Son cher sauveur veut le relever. Dieu veut restaurer ses enfants qui sont bas tombés dans leur première condition, en Christ. Christ. Christ au centre. Au centre, là. Christ au centre de mon cœur. Au centre de ma vie. Des gens, dans la parole, ont été restaurés dans leur vie. Dans leur première condition. Lot. Dis donc, tonton. Avec nos bergers, ils disputent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas Lot qui a dit ça au tonton Abraham. C'est Abraham. C'était un homme de paix. Il ne voulait pas que sa famille soit déchirée. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et le petit, il a regardé le terrain qui ressemblait comme un jardin de l'Éternel. Sodome et Gomorrhe. Et là-dedans, il commençait certainement à calculer si je vais là-bas, les brebis, tac, 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 parents, ding, ding, tac, tac, ding, ding, ding. Bon, voilà. Et en fait, c'était le pire choix qu'il a pu faire. Il a perdu la moralité de ses filles. Et sa femme, il l'a perdue. Elle était attachée à la ville. Ne vous retournez pas. Si vous vous retournez, vous vous transformez en statue de sel. Et l'épouse de Lot. Je pars vers Dieu, en la direction de ce que Dieu veut pour moi. Enfin, qu'est-ce que je vais perdre? Et paf! Statue de sel. Et pourtant Dieu a permis à Abraham de libérer Lot. David, quel péché! L'immoralité, déjà l'immoralité de commettre un adultère, mais en plus de faire tuer le mari. Il a été restauré. Pierre, tu le connais lui? Oh non, je te jure que je ne connais pas. Comment il s'appelle? Jésus. Oh, j'en ai entendu un peu parler, mais je ne le connais pas. Renier le maître. Il a été restauré. Le fils prodigue a été restauré. Et pourquoi ce matin vous ne seriez pas à votre tour restauré? Joachim va... On va lui faire changer de vêtements. On peut remettre le texte là de Roi 25. Il lui fit changer ses vêtements de prison. En fait, il lui fit changer ses vêtements qui représentaient la culpabilité, la défaite, la honte et l'esclavage. Et combien, parfois, de chrétiens viennent au culte, ils peuvent chanter, ils peuvent louer, ils se disent, mais moi j'aimerais tellement aller vivre ce que je chante. Et ce passage, en fait, il suffit de lire la Bible, hein. Ce passage ne vous fait pas penser à un autre passage? À qui vous fait penser cet homme Joachim? On lui a fait changer ses vêtements de prison. Non, pas Joseph. Pas José. Le fils prodigue. Et le fils prodigue est arrivé. Voilà ce que je veux dire à papa. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà ce que je veux dire à mon père. Et lorsqu'il arrive, alors que papa le voit de loin, parce que papa attendait son fiston tous les jours, de loin l'a reconnu à la démarche parce que c'était son sang. C'était son fils. C'était pas le petit voisin du coin. C'était pas son neveu, c'était son fils, son petit à lui. Même si c'était déjà un grand, c'était son petit, son bébé. Oui, mais les grands dadais que nous sommes, pardon, excuse-moi. Non, mais c'était familier, mais c'est... Les grands que nous sommes toujours les petits de nos parents. Et même si on a 60 ans, la mamie qui a 85 ans, c'est son petit, dit, mon petit. Mais rigolez pas, c'est vrai. Ils le vivent comme ça. Et nous, on sera pareil. Enfin, j'espère. Et qu'a fait ce garçon? Papa, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et c'était vrai. C'est pour ça que le Père ne dit rien. Ça s'appelle la repentance. Je ne suis plus digne d'attraper ton fils. C'était vrai. Il avait enlevé l'alliance. Séparé. Mais le fils, le Père ne l'a pas laissé dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, le Père ne l'a pas. Vous relirez, vous verrez que c'est écrit. Le Père ne l'a pas laissé dire. Et qu'a dit le Père? Retirez ses vêtements, revêtez-le de la plus belle robe. Parce que je crois, frères et sœurs, que quand on est un chrétien qui est tombé dans la prison, on s'est enfermé dans une prison. Quand on est honnête, quand on est vrai, on n'ose même pas dire, bon Seigneur, voilà, je te demandais pardon, bon voilà, bon je peux te servir maintenant, je vais faire ce que, voilà, conduis-moi, dirige-moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un temps de restauration. On n'arrive pas comme ça avec la fleur au fusil en disant, bon, ça y est, j'ai demandé pardon à Dieu, bon, ben voilà, c'est bon. On va pas, Dieu pardonne, mais il oublie, c'est écrit, je suis biblique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un temps de reconstruction aussi. Vous pouvez être riche à millions, faire la plus belle maison à Saussée-les-Pins, là, sur les hauteurs de Saussée, vue sur la mer. Wouh! Vous pouvez être millionnaire, vous ferez comme tous les copains. Vous attendrez que les aglots sèchent, ou plutôt que le ciment sèche, pour continuer à bâtir. Et même si vous arrivez avec des valises de billes en disant, regardez tout ça, moi je vous le donne tout de suite, j'ai confiance en vous, mais je veux que demain matin ma maison soit construite, tapissée, peinte, carrelée, puis tout et tout. Vous ne l'aurez pas. Vous ferez comme tous les autres. Et il y a un temps où Dieu veut nous restaurer, nous rétablir, et c'est le temps de Dieu. D'ailleurs, l'Église n'est pas simplement, on comprend pourquoi il y a des masques, l'Église n'est pas simplement un bâtiment. Bien sûr que c'est bien d'avoir un toit sur la tête. Mais l'Église doit être un hôpital. Un hôpital avec différents services. Il y a le service de la maternité, des jeunes qui arrivent, des nouveaux qui arrivent, ils ont besoin d'être maternés. Mais après, il passe à autre chose. Il y a les soins palliatifs, les mourants. Ils ont tout essayé. Et maintenant, je suis en train de mourir. Une petite prière, s'il vous plaît. Comment c'est une petite prière? C'est pas une petite prière qu'on va faire. On t'accueille, les bras grands ouverts. Parce que Dieu t'aime. Et de ces gens qui sont dans les soins palliatifs, Dieu les ressuscite, les régénère, les renouvelle. Il y en a combien qui ont été dans les soins palliatifs, là, dans leur vie? Non, c'est fini, je suis allé trop loin. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu entends ce que je te dis? T'as entendu? T'as bien entendu? Mais oui, c'est à toi que ça s'adresse. Moi, je ne peux pas guiser, mais... Sachez que Dieu n'en a pas fini avec toi. Parce qu'il a toujours ses projets pour toi. Tu t'es enfermé dans une prison, mais Dieu veut t'affranchir de cette prison. Mais la réponse, c'est toi qui l'as. Est-ce que tu veux rester dans cette prison qui est ton confort, qui te donne une apparence de sécurité, alors qu'au fond, toi-même, tu sais que cette prison, tu vas tourner en rond. Et que dehors, il y a la liberté. La liberté en Christ. Joachim va se trouver honoré. Il est écrit, Joachim mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Là aussi, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Mephibosheth. Pourquoi tu prends soin d'un chien mort tel que moi? Il n'avait même plus de respect envers lui-même. Le gars était complètement, mais alors, bah, Il était mort. Dans sa tête, il était mort. Un chien. On a peut-être des animaux de compagnie, les chiens. C'est sympa, un chien. Mais dans certains pays, quand on dit « t'es un chien, toi », c'est une insulte. Quand on a un chien de compagnie, on fait « ah bon,
il est content, il voit papa, il est content ».
Il y a un pasteur, il m'a montré son chien en photo. Je lui ai dit « tu touches les allocations familiales avec ou quoi ?» Le chien, elle me montre la faute. Le chien qui était sur les chaussures à papa. Bon, il faut aimer les animaux, hein, il faut les respecter. Hein. Mais alors là, le chien papa, il faut rater. Hein. Je lui ai demandé s'il touche les allocs, mais il ne touche pas les allocs. Hein. Mais quand quelqu'un disait « tu es un chien », c'était une insulte. Et quand on se fait appeler chien, je suis un chien, on ne se respecte même plus soi-même. Savez-vous que Dieu vous respecte plus que vous ne pouvez vous respecter vous-même? Parce que c'est lui notre créateur. Et Joachim va manger tous les jours à la table de tout le temps de sa vie. Il avait le privilège constant, en contact et constant avec celui qui l'avait délivré de ses liens de servitude. C'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Tous les jours, Dieu veut nous nourrir. Une parole, ne serait-ce qu'une expression que Dieu veut nous donner. Dans la prière, priez tous les jours. Lisez la Bible tous les jours. C'est pas moi, je ne vais pas venir chez vous. De manière, vous l'avez remarqué, hein, dès que l'histoire de le WhatsApp, là, WhatsApp machin, là, hein, dès qu'on a eu la liberté de se retrouver dans l'église, qu'est-ce que j'ai fait? Plus de message, plus de prédication. Et je l'ai fait volontairement. Je l'ai fait exprès, je vous l'avoue. Et puis de manière, je n'ai pas honte de le dire, je signe ce que je dis. Je l'ai fait exprès. Je ne voulais plus qu'à travers ce moyen de communication, on puisse encore écouter les prédications. Pourquoi? Mais parce qu'après, tranquille, on appuie sur le bouton, on écoute. Je ne sais pas, je vais citer un nom, mais Gustave, tu peux m'apporter le beurre, s'il te plaît, et puis t'oublies pas la confiture à la fraise. Dans mon lit, j'écoute la prédication. J'ai pas eu cet exemple, hein. Je suis en train de l'inventer. Mais enfin, hein, vous savez, je rêve que je suis plus. Il y a plein de choses, je suis plus étonné maintenant quand j'entends certaines choses.
Voilà, la prédication. Ah, mais moi, j'écoute la parole. Je ne la lis pas, on me la lit.
C'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Parce que c'est important, frères et sœurs, que nous soyons des lecteurs de la parole. Ce que Dieu veut te dire à toi, il ne va pas me le dire à moi pour toi. Il peut se servir d'un nom spirituel, bien sûr, d'une parole de connaissance, on est d'accord. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en même temps, Dieu veut s'adresser à moi. Et on vit des choses intensives avec Dieu. Quand Dieu nous parle à nous, là, à moi. Quand vous êtes sur votre terrasse, sur votre balcon, peu importe où vous êtes, dans votre cuisine, ou peu importe.
Seigneur, parle-moi. Et vous sentez que Dieu vous visite, vous parle. Mais c'est extraordinaire.
Je vous ai raconté. Non, je ne vais pas le redire, parce qu'après, vous allez dire, il se répète. Après, vous allez dire, il est trop vieux. Moi, je vous le dis quand même. Un jour, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. J'étais dans une prison. Et j'emmène le petit au sport. Un peu le petit qui est grand maintenant, qui bientôt me dépasse. Et j'emmène au sport. Vous vous en souvenez de ça? Ah, vous êtes nombreux à le savoir? Bon, bah tant pis. Et j'étais comme ça, il faisait beau, et sur ce grand terrain de sport, il y avait des grands luminaires qui s'élèvent au ciel, et des phares, des projecteurs, quoi, pour éclairer le terrain de sport quand il fait nuit. Et là, j'étais comme ça, et j'attendais. Enfin, je regardais tout et n'importe quoi, mais enfin, je regardais. Mais alors là-dedans, j'étais en prison. Et à un moment donné, je m'aperçois, mes yeux ont été attirés vers l'ombre du poteau, parce que je m'étais installé sans calcul aucun. Je m'étais retrouvé, un des poteaux d'éclairage était juste derrière moi. Et en regardant sur le terrain de sport, je vois s'élever sur le terrain de sport l'ombre du poteau. Et à l'extrémité de ce poteau, ça faisait presque comme une croix. Et moi, je ne me voyais pas. Il me suffisait simplement de faire ça et je voyais mon ombre. Si je l'avais calculé, il n'y aurait aucun mérite. Et puis ça, voilà. Et alors, là, je vous le dis aussi, j'ai entendu cette petite voix dans mon cœur, que vous connaissez aussi, qui me disait, tu es à l'ombre de la croix. Je n'ai pas eu besoin de prédicateur. Je n'ai pas eu besoin de voir Billy Graham à l'époque qui était encore vivant. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, j'ai vécu seul. J'étais seul sur le terrain de sport. C'est ça dont Dieu veut, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. À l'église, mais aussi à la maison. Ne lisez pas la Bible simplement à l'église. Lisez à la maison parce que Dieu veut nous honorer, veut nous faire manger tous les jours à sa table. Mais par contre, je me dépêche parce que je le retourne. Il nous faut faire attention, frères et sœurs, parce que nous nous habituons aux bonnes choses. Nous courons le risque de nous habituer aux très très bonnes choses, à un point d'être, à un moment donné, on peut devenir négligent. Apocalypse 2, verset 2-5, il est écrit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Wouh ! Oh, dis donc, le chrétien dit. Tout droit du ciel, ça vous tombe comme ça. Vous avez vu un peu ? Je sais, tu as la persévérance et ceci. Eh oh ! Si tout le monde était comme ça à l'église. Hein ? Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Et ça, c'est du chrétien au top. Hein. On peut mettre la suite, ça va continuer, ça va être super. Ah, qu'est-ce qui est écrit ? Ah, ah ! Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut s'habituer aux bonnes choses. Tellement s'habituer aux bonnes choses qu'on peut venir à l'église, qu'on peut lire la Bible, on peut même prêcher. Il n'y a plus rien. On est sec. On a besoin d'être régénéré, d'être renouvelé, jour après jour. On termine l'entretien. Le roi a pourvu constamment son entretien journalier tout le temps de sa vie. Et en fait, ce qu'il a pourvu, ce n'était ni une récompense, ni un salaire. C'était une grâce, uniquement une grâce. Et c'est la raison pour laquelle parfois on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi ? Mais c'est simplement ma grâce qui agit en toi. Parce que, on le sait, on est honnête avec soi-même. Je ne mérite rien. Et vous, vous méritez quelque chose ? Vous êtes comme moi, hein ? On est tous dans la même barque. Et c'est vraiment qu'une grâce. En fait, cet homme a eu une effusion de la grâce. Quand vous prenez votre petit thé, vous le mettez dans l'eau chaude. Si la tasse est transparente, vous voyez. C'est ça. Une infusion. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur. Ne vous inquiétez, parce que c'était un entretien journalier, ne vous inquiétez pas de votre vie, pour votre vie. Le lendemain aura soin de lui-même, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Un entretien que le roi lui donnait. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, nous dit Philippiens 4:19. Tous vos besoins, pas simplement financiers, mais émotionnels, sentimentaux, sur la santé, sur professionnellement parlant, sur toutes choses. Et un entretien permanent, puisqu'il est écrit tout le temps de sa vie. En fait, vous vous posez peut-être la question depuis le départ, c'est la fin, c'est la conclusion. Que signifie Joachim ? Vous le savez, hein ? Vous le savez ? Il y en a qui ne le savent pas, je veux le dire pour ceux qui ne le savent pas. Ça t'arrange, Jean ? L'Éternel établit. L'Éternel établit. Dieu veut à nouveau t'établir dans sa présence. On termine par la prière et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h pour la réunion d'évangélisation. Invitez autour de vous pour que des gens comme vous, comme moi, puissent entendre le message de l'Évangile, qu'ils puissent dire « Mais moi j'avais entendu parler de Jésus, mais maintenant mes yeux le voient agir dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.